table ronde va être animée par Jean-Luc Rivera.
En fait, c'est plutôt une table longue qu'une table ronde. Mais donc, peut-être, je crois que maintenant, vous êtes familier avec tous les participants, sauf Laurent Kessy qui vient de nous rejoindre. Alors, Laurent est un auteur, l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « Comme un automate dément reprogrammé à l'habitant ». Il a aussi écrit deux romans, à ma connaissance, « L'héritier du chaos » et « Trois romans ». Donc moi j'avais l'héritier du chaos et Neurotwistine. Un thriller, oui, mais ça compte pas, ça, les thrillers. On parle de science-fiction. Et il est aussi scénariste de BD. Et donc nous sommes réunis ici pour parler d'une question très intéressante qui avait commencé à être abordée, me semble-t-il, hier lorsqu'on parlait de l'imaginaire francophone. Et c'est « La science-fiction est-elle une confrontation des imaginaires collectifs et individuels ?» Et je trouve que là, nous avons un panel qui est particulièrement représentatif parce que, certes, tous les participants ont un point commun, ils sont tous auteurs, mais à côté de ça, ils ont tous des points de vue très différents puisque nous comptons des directeurs de collection, des anthologistes, des traducteurs, traductrices, des auteurs, certains sont auteurs de BD en même temps, et en plus de ça, dans un milieu qui reste quand même, il faut bien le dire, hein, il faut bien le reconnaître, très masculin, nous avons là la chance d'avoir deux femmes. Et en plus de ça, nous avons aussi le point de vue des deux côtés de l'Atlantique. Donc vraiment, c'est très très riche comme point de vue. Alors, entamons tout de suite le débat. Alors, la science-fiction, confrontation des imaginaires collectifs ou individuels. Donc, je pense qu'on peut peut-être commencer par aller dans l'ordre. Et puis ensuite, chacun s'exprime. Et puis ensuite, vous rebondissez. Bon, Pierre, tu commences
avec joie. Donc la question c'est...
Ah, ils sont durs avec moi. Voilà. La science-fiction, confrontation des imaginaires collectifs ou individuels.
Bien. Alors, j'ai envie de dire que c'est les deux, mon capitaine. Voilà, à toi Gérard. un auteur, c'est un principe individuel, enfin, quelqu'un, un individu qui... fait partie d'un ensemble, d'une société, d'un collectif. Et collectif qui a probablement nourri son imaginaire, et donc qui a à la fois une... Enfin, pour l'écriture, pour moi, je l'aperçois comme une plongée individuelle dans... alors, je vais appeler subconscient, c'est une sorte de subconscient individuel, mais nourri de tout un tas d'autres... de tout un tas d'éléments. Et cette plongée fait que ça devient une plongée dans la nature humaine globalement. Enfin, c'est comme ça que je prends une sorte de grand fleuve humain. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris un bouquin, je plonge dans le fleuve humain et j'en ramène des choses qui j'ai pas toujours prévues, hein, d'ailleurs, qui sont pas toujours très belles non plus. Hein, comme ça. Et je les ramène à la surface et je les dépose sur la berge et je les dépose aussi à l'attention de mes lecteurs et donc du collectif qui est autour de moi. Donc je pense que le rôle de l'écrivain, s'il y a un rôle, hein, je ne sais pas, est assez similaire à celui du héros dont on parlait hier, à savoir, par un parcours individuel, nourri de tout un tas de choses, de tout un tas de collectifs, c'est d'essayer de ramener un peu d'harmonie ou d'éléments de réflexion dans le monde, donc et donc d'être confronté aussi à ces imaginaires collectifs pour essayer d'améliorer, ou améliorer, non, je ne pense pas, mais nourrir l'imaginaire collectif. Voilà, alors, et je suis aussi nourri donc c'est une sorte de double aller-retour entre le collectif qui me nourrit, qui fait de moi un individu aussi, l'individu que je suis, et le fait que je ramène quelque chose au collectif.
Certes. Mais là, il me semble que dans la question, d'un point de vue historique, il y a deux questions distinctes. Il y a une question qui s'est trouvée posée au XIXe siècle, en particulier à la fin du XIXe siècle, sur le point de savoir si la science-fiction, je ne l'appelle pas encore tout à fait comme ça, scientific romance ou merveilleux scientifique ou roman d'anticipation, était ou non une littérature collective. Et nous avons des espèces de conflits d'hommes de lettres, entre des écrivains notoires comme René Aîné, comme Andoyle par exemple, en plagiat, sur le thème du plagiat, sur le thème de l'originalité d'une idée. Et à ce moment-là naît progressivement l'idée qu'au fond la science-fiction, et en quoi, enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait été convaincu à l'époque, mais elle reproduit un peu les fonctionnements de la science elle-même, étant au moins en partie une littérature collective. Le problème est abordé par Maurice Renard, et il est progressivement au XXe siècle réglé. C'est en effet une littérature collective, il y a une tradition, on ne se plagie pas, mais un auteur qui fait résolument preuve de manque d'originalité, d'invention, il est classé comme un gars et on n'en parle plus. Alors à partir de là, la problématique change, on rentre dans la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui subsiste de l'individualité, qu'est-ce qui subsiste de la création personnelle dans cette vaste création collective. J'insiste sur cette création collective parce que c'est pratiquement sans équivalent dans la littérature. Aujourd'hui, on voit encore se battre en duel, enfin pratiquement pour l'histoire du plagiat, des écrivains qui ont écrit à peu près la même histoire, et la même histoire est écrite depuis plusieurs milliers d'années sans que personne n'y voit mal. Dans le domaine de la science-fiction, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Enfin, chacun doit apporter, en fonction, comme le disait très bien Pierre, de son individualité, de sa personnalité propre, ce qu'il a de nouveau amené en sachant qu'il s'inscrit dans une tradition. Comme ça que je répondrai pour répondre à la question.
Oui, moi quand j'ai vu la question, ce à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est justement quelque chose d'un petit peu parallèle à ce dont tu parles. C'est-à-dire que si la science-fiction est une littérature collective, ce qu'elle est aussi à mon avis, ça veut dire qu'il s'y établit donc une conversation perpétuelle, continue. Et j'ai tout de suite pensé à deux exemples, un masculin, un plus masculin, un plus féminin. C'est-à-dire que, bon, c'est valable pour toute forme d'art, on entretient toujours une conversation avec nos contemporains, avec ceux qui nous ont précédés, c'est pareil aussi dans la science, mais l'idée de conversation n'est peut-être pas aussi forte dans la science, dans la mesure où, dans la littérature en particulier, on dialogue avec des mots. Donc c'est, l'idée de conversation est plus immédiate. J'en veux pour exemple ce qui est arrivé à la fin des années 60 pour toute ma génération d'écrivaines et quelques écrivains aussi, avec La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. À partir de ma lecture de ce livre-là, je n'ai cessé d'entretenir une conversation avec Ursula de la même façon que quantité d'auteurs de ma génération. Cette conversation a eu lieu, elle continue d'avoir lieu, elle ne finira que lorsque nous serons toutes les deux retournées à la poussière. Et c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas d'une façon aussi poussée et aussi soutenue dans la littérature générale. Parce que dans la science-fiction, non seulement c'est une littérature collective, mais c'est dur, cette histoire, c'est une grande famille, avec bon, l'idiot de la famille, celui qu'on cache parce qu'on en a honte, enfin, tout ça. Et on ne se contente pas de converser par l'intermédiaire des œuvres, mais on rencontre les gens, on leur parle, on établit des rapports personnels avec eux, ce qui oriente la conversation aussi d'une certaine façon. Ça, c'était l'exemple plus féminin. L'exemple plus masculin, ce serait le mouvement du cyberpunk. D'une certaine façon, c'est aussi, à partir du moment où Gibson a sorti Neuromancien, il y a toute une génération de et Bruce Sterling et Beth. On a commencé à entretenir une espèce de conversation qui, alors ça c'est un cas quand même plus spécifique, a débordé dans la société at large, en général, sur quelle allait être la nouvelle définition de la modernité. Et ensuite, bon, il y avait la postmodernité qui sévissait aussi depuis un moment dans la société générale. Donc, il y a cette conversation. Dire que c'est une littérature collective, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect personnel de la chose, parce que ça me paraît vraiment spécifique. J'aime bien cette idée d'une conversation. La question qui revient, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais une question qui m'est souvent posée dans les salons, c'est évidemment, mais où prenez-vous toutes ces idées? Et puis, bon, c'est avec une certaine, pas tristesse, je dirais, une certaine fatalité qu'on dit, mais je les prends ailleurs, je les prends pas, non, elles ne sont pas toutes dans ma tête, je les prends ailleurs, je les prends effectivement dans les textes de science-fiction, mais dans la vie aussi, hein, et d'autres personnes aussi qui ne sont pas trop habituées de voir des auteurs de science-fiction écrire sont un peu étonnées parfois de voir toute cette recherche aussi à faire quand on écrit de la science-fiction. Donc, effectivement, il y a un élément collectif chez d'autres, des éléments qui nous viennent d'autres auteurs, ne serait-ce que le vocabulaire ou les notions, les concepts, etc. Et puis, j'aime l'idée aussi, j'aime l'idée que la science-fiction, à l'intérieur même, soit aussi un collectif de voix, c'est-à-dire que quand j'écris mes textes de science-fiction, j'aime bien aussi que sentir plusieurs points de vue, offrir plusieurs voix, que ce soit polyphonique, que ce soit peut-être pas dialectique, mais en tout cas dialogique, que ce soit qu'il y ait quand même une conversation à l'intérieur même du texte pour pas donner quelque chose d'univoque, quelque chose à une seule voix. Et bien, pour revenir donc à la question du dialogue et de la collectivité, le tout, je pense aussi, c'est d'être de balancer, de faire l'équilibre entre l'originalité et la conscience aussi des influences. C'est beaucoup plus intéressant de jouer avec les influences une fois qu'on les assume et qu'on en est conscient, quoique ça va toujours déborder aussi, évidemment. Quand quelqu'un nous lit aussi, quand quelqu'un lit un texte de science-fiction, il dit « Ah, ça me fait penser, ça évoque ceci et cela », ça en dit autant souvent des influences de l'auteur que ça en dit des influences du lecteur aussi, de la lectrice, qui arrive lui-même, moi-même, avec son bagage aussi. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on y trouve de collectif ou en tout cas de commun a été mis là, mais ça peut aussi... Ça n'empêchera jamais de le lire, là, aussi. Alors, il y a le collectif aussi des lecteurs autant que des auteurs, je dirais.
C'est très difficile de passer après mes collègues parce que j'ai l'impression d'être dans un banquet. J'avais prévu une blague et elle a déjà été racontée en mieux plusieurs fois. Non, c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses. Alors, justement, je vais essayer d'en revenir à une définition, comme ça j'évite, mais enfin, il y a plein de choses que j'ai reconnues qui me parlaient, quoi. Donc, l'imaginaire, alors, déjà, j'en profite, moi, pour dire que, contrairement à pas mal de gens, c'est une discussion qu'on a souvent, j'aime beaucoup la notion de littérature de l'imaginaire. Je sais que pour beaucoup c'est un pis-aller, moi j'y tiens, parce que elle correspond à ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'imagination créatrice. On distinguait deux types d'imagination avec Descartes par exemple, genre on avait déjà parlé de ça, je ne sais pas si tu te souviens, l'imagination reproductrice qui correspondrait peu ou prou à la littérature mimétique, et l'imagination créatrice qui recomposerait des images à partir de celles puisées dans l'imagination reproductrice, qui Descartes donne par exemple comme exemple une sirène ou un centaure, qui seraient donc des combinaisons d'images sirène, femme, poisson, etc. Bon, et donc ce serait ça l'imaginaire. Donc je défends dans un premier temps cette notion d'imaginaire en tant que production de nouvelles images empruntées au réel. D'autre part, si la science-fiction est une littérature de l'imaginaire, elle me semble, je parle de l'approche collective, adopter un point de vue, enfin une situation plutôt très originale, très intéressante, qui serait une sorte de chaînon, de moyen entre la littérature dite générale ou mimétique et la littérature de fiction. Elle me semble... Mais elle serait pas définie par la négative, mais de plein droit comme étant une littérature aussi importante que la littérature générale et d'autres types de littérature de fiction. Parce que justement, la science-fiction
dans son imaginaire, est en prise avec le réel. On en a parlé énormément durant ce colloque. Elle est aussi en relation avec des possibles ou des non-advenus, etc. Donc je pense une situation extrêmement forte que n'atteindra pas, par exemple, la fantaisie, pour d'autres raisons. Bon. Dernier élément, me concernant cette fois-ci, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, j'écoutais Pierre et je m'y reconnaissais, cette espèce de va-et-vient d'échange que tu décrivais. Moi, je pensais aux idéogrammes chinois qui sont quasiment vivants. Ils existent en tant que système et on peut presque chacun composer un nouvel idéogramme qui viendra enrichir l'ensemble. C'est une espèce de relation comme ça. Je crois que c'est une question très importante, celle-ci.
Eh bien, merci. Normalement, la fin a manqué. Tout le monde est ivre-mort, donc celui qui passe en dernier peut dire des bêtises. Donc là, je suis mal barré. Non, juste deux remarques. La première, c'est peut-être que je me trompe, mais il me semble que la SF, peut-être avec le polar, est une des seules littératures, sans doute à cause de ses origines populaires, où des auteurs écrivent véritablement ensemble. Il ne me semble pas que dans la littérature générale, on ait par exemple des couples d'auteurs. Alors que c'est quelque chose de très fréquent. Si, on en a. Ouais. Bon, alors j'ai dit une bêtise. En tout cas, dans la SF, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Des auteurs qui écrivent ensemble. Donc là où...
Laisse parler le roman, j'interviendrai.
En tout cas, voilà. Il y en a beaucoup dans la SF, il y en a beaucoup dans le polar. Et l'autre remarque, c'est en écoutant les autres, notamment ce qu'a dit Elisabeth sur le cyberpunk, il me semble que depuis le cyberpunk, justement, il n'y a plus de mouvement vraiment collectif où on se répond, en tout cas moins qu'avant. Et j'ai l'impression que les auteurs qui écrivent depuis les années 90, sont plus dans un mouvement de réappropriation, de travail réflexif sur la science-fiction, et pas de travail de dialogue et d'avancée. Comme on n'a pas eu de mouvement de novateur depuis le cyberpunk. J'ai l'impression qu'on a eu le nouveau space opéra peut-être, mais qui est juste une façon de recréer un autre space opéra. Et donc cet aspect collectif, il me semble, hein, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, a peut-être changé de paradigme depuis quelques années. Et là, Gérard va me dire non, pas du tout.
Ouais, c'est-à-dire, c'est pas là-dessus que je voulais rebondir, mais enfin, moi, je crois qu'on exagère beaucoup l'existence du mouvement cyberpunk. J'ai eu l'occasion d'en parler avec, je ne sais plus, pas avec Gibson, je crois que je n'ai jamais rencontré, mais je ne sais plus, enfin, avec beaucoup, avec Spinrad, par exemple, etc. Bon, il y a eu Serling, Gibson, une demi-douzaine d'autres auteurs, mais ça a tout de suite... en fait, la science-fiction a toujours été une réflexion sur elle-même, sur ce qu'elle était, un rebondissement, et c'est là que je voudrais revenir à ce que je voulais introduire, c'est que c'est à peu près le seul genre littéraire que je connaisse, même dans l'imaginaire, où on puisse dresser vraiment une généalogie des thèmes. Tout à l'heure, Samuel Mean posait la question du mutant à propos de Nathalie Enberg. On peut tout à fait dresser une généalogie du thème des mutants. En littérature générale, si vous voulez dresser une généalogie du thème de l'adulteur, bonne chance, il va falloir remonter vraiment haut, à l'Iliade, aux Atrides, enfin, et probablement bien avant. Donc, ce qui m'intéresserait justement dans les travaux de recherche, et en particulier les travaux universitaires dans la science-fiction, c'est de constituer, à partir d'une bibliographie exhaustive, une généalogie des thèmes, et d'étudier à partir de là l'interaction des auteurs entre eux, mais aussi et surtout c'est l'évolution de ces thèmes en fonction de l'évolution de la société, l'évolution de la science. Voilà,
je pourrais rebondir parce que j'ai pas compris la question tout à l'heure. Donc, je viens de comprendre la question qui était posée, c'est pour ça que j'ai non, je pensais que c'était l'apport du romancier au collectif, mais en fait c'est l'enrichissement de l'imaginaire collectif pour le romancier. Je pense qu'il est très urgent de sortir de la science-fiction. pense que les textes ont une vocation à portée universelle. Le fait de rester coincé dans cette conversation de la science-fiction, et je ne dis pas qu'Elisabeth l'est, surtout pas, je pense qu'elle a une vocation aussi universelle dans ces textes, a tendance à enfermer les auteurs et les lecteurs dans un genre. Et pour moi, ce n'est pas mon propos, parce que mon texte, enfin, quand je fais un texte, j'ai envie qu'il s'adresse au plus grand nombre. Et je ne dialogue pas seulement avec les gens de la science-fiction, je dialogue aussi avec Homer, tu parles des mutants, ils trouvent déjà leur mythologie. Et je ne pense pas créer quoi que ce soit, je ne pense pas inventer quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que tous les schémas narratifs sont posés depuis la nuit des temps, et que je ne fais que m'inscrire dans un sillon qui a été creusé par les grands anciens, aussi bien Homer, les contes sumériens, enfin les mythes sumériens, tout ce qu'on veut, que ces thèmes sont déjà posés, et que nous ne faisons que les reprendre avec un léger décalage technologique, puisqu'il y a eu l'avènement de la technologie après, mais que pour l'essentiel, en tant qu'auteur, ce que je cherche, c'est justement à me dégager de l'espèce de technologisation du récit pour atteindre l'universel. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, parce que ce serait très prétentieux de ma part, mais en tout cas, en tant qu'auteur de science-fiction, j'ai une obsession, c'est d'échapper justement à l'enfermement pour ouvrir le maximum le texte et donc tendre des passerelles aux gens et de dire, les gens, venez, venez. Vous ne connaissez pas la science-fiction, vous en avez peur, mais venez. Alors moi, je suis un auteur, et si je ne vous tends pas une passerelle, qui l'attendra ? Qui vous la posera ? Je ne vais pas écrire pour 3 ou 4 pelés qui connaissent la science-fiction beaucoup, beaucoup mieux que moi. Alors, je suis sidéré par la connaissance de certains amateurs de science-fiction. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Voilà, les gens. Parce que sinon, à quoi je servirais en tant qu'auteur ? Et là, du coup, je reviens à ma première intervention qui est, qu'est-ce que je peux apporter moi en tant qu'auteur au collectif ?
J'ai envie de revenir un petit peu par la tangente. Ou du moins, j'ai envie de prendre une tangente, fuyons, sur le rapport de l'individuel et du collectif. Très souvent, on les oppose. Et on parle du moi, du je, du soi. Enfin, et il me semble qu'on a une conception du je, du sujet, qui est très limitée, justement. Quand je dis je ne peux parler que de moi dans ce que j'écris, ce n'est pas le je me moi nombriliste, centripète. C'est je suis traversée par, de proche en proche, il y a ce qu'il y a autour de moi, il y a mes amis, ma famille, il y a ma société, il y a ma culture, il y a mon espace géographique, et de proche en proche, c'est l'univers tout entier qui me traverse et auquel je rends. Cette conversation-là, elle a lieu avec l'univers tout entier. Rien de moins. Donc, il est facile d'échapper, Pierre, à la science-fiction, parce que notre sujet, en tant que créateur, c'est l'univers. C'est peut-être un petit peu large, mais l'univers, c'est tout, c'est vous. Vous êtes là.
Je parlais de l'obsession des références dans la science-fiction, que souvent, cher saint Antoine, en disant, par rapport à tel texte qui a été écrit avant, est-ce que je suis dans la référence, est-ce que je suis créateur de quelque chose de nouveau ou pas ?
Je sens que je vais dire Bernard Werber. Qui justement essaye. Sois gentil, Gérard. Je viens dire son dernier roman, et franchement, pour les gens qui ont peur de la science-fiction, ce n'est justement pas quelqu'un qui travaille dans la référence. Il est pédagogique, il est plein d'humour, il est charmant, ça se lit très aisément, et il parle à l'universel. Qu'est-ce qu'on demande de plus, Sapristi ? Je retire ma parenthèse sur Bernard Werber.
Non, tu peux la mettre, c'est pas le problème. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre le point de vue de Pierre Bordage et ceux qui ont été défendus auparavant. Je voulais citer vraiment un exemple d'un auteur qui ignorait tout de la science-fiction et qui a tout dû aux lecteurs de science-fiction, et qui est un homme important, c'est Olaf Stapledon. Olaf Stapledon, qui était un enseignant de philosophie, écrit rien qu'un surhomme sur le thème des mutants, et puis surtout son gigantesque Les Derniers et les Premiers, sur le thème de l'histoire de l'humanité, sur les milliards d'années, enfin je ne sais plus combien d'espèces humaines successives, enfin au moins une vingtaine. Et puis d'autres livres du même avec Sirius, qui est l'histoire d'un chien qui a été très fortement amélioré, qui parle, qui devient tombe d'ailleurs, hélas, amoureux de sa maîtresse, etc. Or, Il est possible que Stapleton ait un peu lu Wells, mais on n'en est même pas certain. En fait, il ne sait rien à cet univers. Et il a été complètement sorti de l'oubli où il s'est tombé par les lecteurs de science-fiction qui l'ont reconnu comme un de leurs auteurs phares, enfin un auteur très important. Alors, il y a là une collectivité, ça ne veut absolument pas dire, il y a une généalogie des thèmes, ça ne veut absolument pas dire que l'individu, l'auteur particulier, s'y perd. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il développe sa subjectivité. Alors, je ne veux pas m'étaler ici sur le thème de subjectivité collective, mais je renverrai à mon excellent ouvrage « Trames et bois » publié par les éditions du Somnium. Que je vous recommande tous de lire.
Il est sans doute possible, il a été possible, il sera possible d'écrire des textes de science-fiction sans en avoir lu un seul, j'en conviens. Mais reste que c'est quand même un peu risqué. Reste que, pourquoi se priver aussi? C'est comme quelqu'un qui dirait, mais on peut sortir de la science-fiction, qui dirait, ah, je peux risquer de lire d'autres romans au cas où je serais influencé par les romans, et qui déciderait d'écrire son roman original. Il y aurait de fortes chances qu'on trouve que cette personne-là a plus imité les autres que s'il avait véritablement lu ses contemporains et les œuvres du passé. Je pense. Et puis on peut, là cette fois-ci je n'aimerais pas d'auteurs, mais on a probablement tous lu des œuvres d'auteurs qui n'étaient pas qui n'avaient pas lu science-fiction, qui refusaient le mot science-fiction, etc., et qui auraient gagné à en avoir lu, ou qui auraient gagné à avoir un éditeur qui en avait lu, qui savait de quoi il parlait. Il y aurait eu matière à amélioration, ça aurait pu donner de bien meilleures œuvres. Donc, pourquoi se priver de sources? D'autre part, il ne faut pas non plus obséder sur les sources. C'est une question d'équilibre, quant à moi.
Oui, ça
ne
marche pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et contrairement à Pierre, ça, là aussi, c'est mon avis personnel et la façon dont je fonctionne, mais il me semble que je n'écris pas que de la science-fiction, mais quand j'écris de la science-fiction, je suis conscient que j'écris de la science-fiction, et j'ai à m'apporter des outils, justement, qui proviennent d'une boîte à outils qui est collective et de pas mal d'années d'histoire, que j'utilise en ayant conscience qu'ils appartiennent à cette histoire et que ce sont des outils à utiliser. Quand j'écris, je sais pas, de la fantasy, évidemment, j'ai d'autres outils à ma disposition. Et alors, je ne sais pas si Pierre fait abstraction de tout ça ou quoi, mais il me semble que c'est en cela que ce sont des genres collectifs, quoi. C'est parce qu'on a des outils dans lesquels chacun peut aller puiser.
On entretient aussi une conversation avec la science, avec l'évolution de la connaissance. Ouais. Mais j'étais en train de me dire, la collectivité dont on parle, c'est aussi une collectivité de tournure. On disait la science-fiction est une tournure d'esprit. Tu disais des gens qui n'ont pas lu, mais Voltaire n'avait pas lu de science-fiction, mais il a écrit Cro-Magnon. Il y a une tournure d'esprit, il y a une filiation de la science-fiction du côté de la fable philosophique, etc., qui permet d'écrire la science-fiction sans avoir lu de la science-fiction.
Sur Voltaire, c'est le cas de Micromégas, c'est très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que le Voltaire en Angleterre avait énormément fréquenté le milieu scientifique de son temps. Et on a complètement gommé, en particulier les philosophes et littéraires, je l'en veux énormément, pas ceux qui sont présents dans cette salle énormément, ou sous le prétexte d'appeler ça un conte philosophique, ont complètement gommé la dimension révolutionnaire dans la narration du Micromégas de Voltaire, parce qu'il y introduit des concepts qui sont tout neufs, relativement tout neuf, newtonien, dans la littérature. Il faudra attendre très longtemps pour que ça revienne. Et puis, il avait une amie dont le nom m'échappe, mais sûrement quelqu'un le connaît ici, qui a un tout petit peu traduit Newton et qui était une bonne mathématicienne.
Alors, pour répondre à Werber, parce que j'y tiens beaucoup, je m'inscris en faux contre le Werber bashing. Je trouve ça très facile sur les forums. Sur les forums, il y a une grande partie de l'énergie des participants au forum sont de casser du sucre sur le dos de Werber, ce que je trouve complètement crétin, moi. Parce que Werber, quoi qu'on en dise, il y a des lecteurs qui viennent me voir en me disant « J'ai commencé par la science-fiction en disant Bernard Werber. Donc maintenant, je vous découvre et je découvre d'autres auteurs. Et si à travers moi, ces gens-là, parce que je ne suis pas du tout un artisan, je ne fais pas d'art science, je ne fais pas une science-fiction très compliquée, découvrent Egan ou d'autres à travers moi, je suis super content. » Donc il ne faut pas négliger l'apport de Werber au genre de l'imaginaire, parce qu'il y a plein de gamins de 13-14 ans qui découvrent ça grâce à lui. Et rien que pour ça, ben, je lui rends hommage, quoi, parce qu'après on peut trouver c'est dérisoire ce qu'il fait. Peu importe, je pense qu'il est sincère, et que c'est ça le principal, et que sa sincérité fait qu'il a des lecteurs. Et ces lecteurs après viennent aussi dans d'autres bouquins, viennent dans les bouquins de Xavier, de Laurent, de Sylvie, etc., de tout le monde. Et ce sont des gens acquis au... Et puis pour répondre à l'autre question de Laurent, évidemment je suis lecteur de science-fiction aussi, hein, parce que pour moi je cherche le vertige dans la lecture, alors que je trouvais dans les mythologies, je le trouve aussi dans la science-fiction, je le trouve aussi dans la fantasy, donc l'imaginaire me plaît énormément en tant que lecteur, mais après je ne cherche pas à tracer la genèse de mes influences, je m'en fous, quoi. Après il y a plein de choses qui me traversent et tout ça, et je m'en sers, tu parles d'outils, je ne sais pas si c'est des outils, mais voilà, j'ai aussi un imaginaire qui a été construit par ces lectures imaginaires. Et donc forcément, j'ai subi une forme d'influence que je ne maîtrise pas toujours, enfin, dont je ne sais pas toujours retracer la genèse, mais évidemment qu'il y a... En tant que lecteur, j'adore ça aussi. Quoi.
Comme l'heure tourne très vite avec ce débat qui est très riche, et que là, on s'écarte peut-être très légèrement du thème initial, et pour conclure, surtout si on veut avoir en même temps quand même... quelques minutes ensuite pour les questions avant de se retrouver enfermé pour la nuit dans la médiathèque. Bon, en vous écoutant, on a parlé d'abord des imaginaires personnels et de la manière, c'était très intéressant, dont dans la science-fiction, il y a peut-être une certaine spécificité de l'échange au niveau du collectif dans la science-fiction. Et puis je me faisais la réflexion en même temps en écoutant Gérard qui parlait de la manière dont on peut retracer la généalogie de certaines thématiques. Donc pour en revenir, pour élargir un petit peu, je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir si à travers vos imaginaires personnels d'auteur, vous ne vous faites pas en même temps le reflet de l'imaginaire collectif là au niveau de la société en général. Et avec ces évolutions, par exemple, on constate que par moment, je pense surtout aux peurs qui agitent la société, on s'aperçoit qu'à un moment, on parlait beaucoup, en science-fiction, on parle beaucoup de la bombe atomique, de la guerre atomique et des questions qui peuvent suivre. Il y a eu la pollution aussi. Maintenant, on trouve souvent les thèmes de la génétique et des technologies diverses. Donc, est-ce qu'à travers ça, il n'y a pas aussi le reflet, le traitement de certains imaginaires collectifs.
Oui, tout à fait. D'abord, c'est ce que je vais essayer de faire dans mes travaux de sociologie littéraire, soit en partant de termes relativement précis comme ceux que tu indiques, soit de situations critiques beaucoup plus vastes. Mais oui, bien sûr, la réponse est oui.
Très bien, ben alors, puisque tout le monde est d'accord et que ça va très vite, Sylvie, le mot de la
fin. Mais oui, je vais en remettre. Non, j'ai juste allé vers l'aspect pratico-pratique aussi. Il y a tellement des raccourcis communs également là dans tout ça. Oui, bon, on peut parler d'imaginaire collectif, mais il y a aussi, bon, si quelqu'un a inventé la notion, quelqu'un a imaginé, bon, et on sait aussi qu'on n'aura pas à l'expliquer, on sait qu'on n'aura pas à penser à des façons de le mettre en contexte. Pourquoi pas utiliser le mot en cible? Bon, c'est un exemple, mais il y en a tout plein. C'est facile, on sait que les lecteurs de science-fiction vont avoir cette culture-là. Oui, bon, faut toujours un petit peu faire le petit travail, il ne faut pas être complètement paresseux, essayer de le mettre en contexte un peu, mais ce sont des raccourcis aussi assez commodes.
Vous avez quelque chose à... Alors, je crois qu'on va passer aux questions parce que je vois qu'il est déjà 7h moins le quart. Donc, y a-t-il des... Je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup de questions dans la salle maintenant. Ou alors, tout le monde est anéanti et attend l'apéritif pour le dîner. Dites pas que vous n'avez pas de questions face... Voilà. L'esprit collectif, là.
On va être obligé de faire tourner la table.
Oh, vraiment rien. Ou alors c'est que vous avez faim et soif. Et que vous êtes pressé. Ah ben ça, je crois qu'aucun d'entre nous n'en a douté un seul instant.
Vraiment pas.
Vraiment. Ah, quand même. Ah. Il y en a un qui se débat.
En fait, juste une petite question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience de peut-être de chacun d'entre vous comme texte de littérature non science-fictionnelle qui aurait eu une influence directe ou importante dans l'écriture d'un de vos textes de science-fiction?
Des tas. Hein, j'ai lu énormément de choses en dehors de la science-fiction. J'ai par exemple écrit il y a fort longtemps une nouvelle qui s'appelle « Le cavalier au centipède ». Et ma source d'inspiration, c'était un très beau roman d'Albert Penbarren, dont le titre m'échappe là d'ailleurs, c'était un grand écrivain du sud-américain, et là c'est un tout petit peu oublié, je ne sais plus comment s'appelait son roman, mais enfin des tas.
Une traduction que j'ai faite en immergeant dans cet univers-là, dans cette façon-là de raconter, ça, j'ai eu le sentiment après d'avoir écrit différemment. C'est une auteure qui ne racontait pas du tout de la même façon que dont moi je racontais. Puis ça, oui, je suis sûre que ça a eu un effet. Les exégètes en témoigneront, mais enfin, j'ai l'impression que ça a eu un effet.
Mais j'ai un peu la même réponse. Il y a deux cas où, effectivement, la traduction m'a appris à utiliser un certain type de technique narrative que je n'utilisais pas auparavant, qui était le point de vue multiple. Et l'autre exemple, qui est relativement récent et qui est peut-être le seul cas où vraiment un texte a influencé le contenu d'un de mes romans, c'est la thèse de Bertrand Méheust, Somnambulisme et médiumnité, qui est en deux tomes, tout comme ça, qui ont beaucoup influencé, ou qui étaient en convergence tellement totale avec ce que j'avais envie de raconter dans Reine de mémoire, que je lui ai rendu hommage dans la préface, enfin dans les remerciements, parce que vraiment, il y avait là une. De toute façon, les œuvres de Bertrand sont une inspiration constante. C'était vraiment une inspiration, oui. Mais c'est la seule fois.
Moi, c'est la lecture d'un Selection du Reader Digest. Quand j'étais petit, il y avait Dan Mannix, donc le digest des mémoires d'un cracheur de feu qui racontait comment un jeune journaliste devient cracheur de feu dans un petit cirque américain des années 30. Bon, là, ça m'avait assommé. Hein. Là, c'est le monolithe de 2001. Hein. J'ai de l'énergie qui passait. Et à l'époque, je vivais en Espagne, hein, c'était l'Espagne franquiste. Et j'ai vu petit un cirque qui s'appelait le Cirque des Rats. Les deux types, un sidecar et une jeune femme, qui arrivaient avec des boîtes. Et première boîte, il y avait un rat. Deuxième boîte, un plus gros rat. Troisième boîte, un vraiment très gros rat, et à la dernière boîte, il n'ouvrait pas parce qu'on n'était pas prêt à voir le rat. Et la fusion de ces deux choses en très peu de temps ont créé mon imaginaire, j'en suis certain.
Alors moi, j'ai eu quelques romans qui échappent aux gens. Il y a eu Siddhartha d'Hermann Hesse, beaucoup de romans d'Hermann Hesse d'ailleurs, dans les jeux des perles de verre, mais qui se rapprochent du coup du genre. Siddhartha pour son côté initiatique. Enfin, je trouve que c'est un modèle de roman initiatique pour moi. Et puis, on en a parlé ce midi, mais évidemment, Le Sabre et la Pierre de Ishikawa, qui est pour moi un modèle de roman épopée, enfin d'épopée héroïque, qui est la vie de Miyamoto Musashi, un sabreur du Japon qui a créé le traité des synchros. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le Parfum de Suskin, dont je parlais aussi, pour moi aussi un modèle vraiment de récit basé sur un sens, une force incroyable. Et j'aime beaucoup, par exemple, La puissance narrative de Tom Wolfe, auteur américain contemporain.
Laurent? Pareil, j'ai lu beaucoup de littérature générale, évidemment. En fait, je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps. C'est que chaque fois que j'écrivais à la première personne, et ça m'arrive souvent, je plagie, je pense, sans le vouloir, et de façon très mauvaise à Henri Miller. Et ouais, en relisant Henri Miller, je me suis dit, mais ouais, voilà. Et donc, c'est un peu pathétique d'avouer ça. Mais voilà. Même quand c'est un ado de 14 ans, c'est je sais pas.
Très bien, bah, une autre question.
Je
voudrais savoir s'il y a des scientifiques qui ont osé venir vers vous en disant que, en lisant vos œuvres, ça leur a donné la vocation.
Alors, oui, là, je peux répondre. Ils n'ont jamais, pour une fois, pour une fois, jamais aucun n'est venu vers moi qui n'osait pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de scientifiques et je pense à Jean Audouze qui était le conseiller scientifique de Mitterrand et un astrophysicien, Jean-Pierre Luminet. Enfin, il y a des tas de scientifiques que j'ai rencontrés et qui m'ont dit avoir lu beaucoup de science-fiction. Évidemment, ils le confessaient à voix basse, enfin, dans un lieu écarté, dans un coin écarté. Non, mais oui, oui, aujourd'hui en particulier. Dans les années 50-60, c'était pas du tout comme ça. Quand on passait à la télévision avec un scientifique, on regardait de très haut. Aujourd'hui, 9 fois sur 10, on tombe sur quelqu'un qui a lu, qui a plus tellement, pas nécessairement le temps, mais qui a lu et souvent lu beaucoup de science-fiction. À qui ça a pu donner la vocation de scientifique.
Très bien. Ben, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos intervenants.
Bien, donc maintenant, alors juste, je redis les détails pour ce soir, hein, petit détail pratique. Donc on se retrouve à 20h, 8h, donc devant le Grand Théâtre. Donc j'ai téléphoné au restaurant, il n'y a pas de problème.